Bonjour à tous. On s'est raccroché à elle pendant la crise du Covid. Les études scientifiques nous ont permis de mieux comprendre ce qu'était le virus auquel on était confronté. Sauf que quand on gratte sous le vernis, eh bien, on découvre d'étranges choses. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer que de plus en plus d'études sont bidonnées grâce à l'intelligence artificielle. Et puis nous recevrons Frédéric Charpier. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre consacré à l'IGPN et avec vous, nous verrons que cette police des polices manque de moyens lorsqu'on ne lui met pas tout simplement des bâtons dans les roues.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
28 jours, c'est la durée de survie du coronavirus sur certaines surfaces. Voilà ce qu'affirme une étude australienne.
Le Covid-19 est terriblement contagieux. Nous reviendrons sur une étude de chercheurs chinois.
5,7% des Français auront été contaminés le 11 mai. C'est le résultat d'une étude qui confirme l'impact positif.
Voilà quelques extraits de journaux télévisés qu'on a pu entendre ces derniers mois et qui montrent combien, alors que nous étions confrontés à un nouveau virus, chaque nouvelle étude scientifique venait nous aider à comprendre ce à quoi nous faisions face. Et pourtant, on va le voir, certaines de ces études, elles n'ont pas été aussi rigoureuses qu'on aurait pu l'attendre. Mais pour commencer, Anne-Laure Barral, ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que sous la pression du Covid, on a vu le nombre de ces études exploser.
Oui, en fait, rien que sur le Covid, on en est à plus de 600 000 études publiées en 2020. Et toutes sciences confondues, il y en a deux fois plus qu'il y a 10 ans. Mais au-delà du nombre, on a assisté aussi à un phénomène nouveau en médecine. On a vu apparaître dans la presse ce qu'on appelle des préprints, autrement dit des études préliminaires, des brouillons d'études. En tout cas, c'est comme ça que les voit Guillaume Cabanac, maître de conférences en informatique à l'Université de Toulouse.
Avec la pandémie et la pression, l'urgence à trouver des traitements, des solutions au Covid-19, les scientifiques du monde entier, en commençant par les scientifiques chinois, ont décidé de partager des résultats avant d'envoyer à des revues avec évaluation par les pairs. On avait des scientifiques qui partageaient leur travail en cours. Et certains médias se sont emparés de ces supports, les préprints, des brouillons de recherche, et ont communiqué dessus à propos de ces résultats comme s'ils étaient définitifs.
Ouais, parce que nous étions avides d'informations face à un virus qui nous inquiétait. Mais le souci, Anne-Laure, c'est qu'un brouillon, c'est pas forcément fiable.
C'est un peu le problème, et c'est ce que pense en tout cas Caroline Goujon, qui est virologiste moléculaire à l'Institut d'infectiologie de Montpellier. Elle considère que cela a contribué à diffuser de fausses informations.
Du moment que l'article va avoir un message qui parle au public, les gens vont avoir tendance à reprendre l'idée. Et on a vu le cas, pendant la crise notamment, avec des études qui étaient mises en ligne et reprises rapidement par la presse, qui ont fait un dommage incroyable en fait dans l'opinion publique. On a entendu des aberrations totales. Le SARS-CoV-2 a été fait en laboratoire, ce qui contient une séquence du VIH. C'est complètement faux. Il y a pas de séquence du VIH dans le SARS-CoV-2. Mais voilà, on a entendu des choses. Et au départ, ça peut être lancé par des préprints qui contenaient n'importe quoi ou qui ont été mal interprétés.
Des préprints mal interprétés, mais lesquels par exemple ?
Eh ben, on a beaucoup repris des études consacrées à la persistance du virus sur les surface, hein, on a dit jusqu'à 6 jours sur le plastique, alors que en fait c'est à cause de la présence du virus dans l'air que les contaminations se font le plus. C'est ce qui fait dire à Caroline Goujon que toutes les études qui n'en sont qu'à un stade préliminaire n'auraient pas dû être rendues publiques.
Le vrai problème, c'est tout ce qui fait in vitro, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des composés antiviraux, par exemple, qui, dans une culture cellule, dans une boîte de pétri, vont empêcher complètement la multiplication du virus. C'est le cas du remdesivir. C'est le cas aussi de l'hydroxychloroquine. Dans certains types de modèles in vitro, mais pas les modèles les plus physiologiques. Et après, on voit bien ce que ça a fait chez l'homme. Rien du tout. Tout ce qui est in vitro, ça devrait même pas être dévoilé au grand public, en fait.
Donc on aurait communiqué trop vite ?
Apparemment oui, et personne n'en est sorti indemne. Même le prestigieux journal Le Lancet y a laissé des plumes. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Surgisphère en juin 2020 ?
Ah oui, c'est cette pseudo-étude sur l'hydroxychloroquine.
Oui, une petite entreprise affirme avoir récolté des données dans le monde entier qui montreraient que l'hydroxychloroquine augmente la mortalité. Sauf que Surgisphère n'a jamais dit comment elle avait obtenu ces données. Le journal journal a donc rétracté l'étude et depuis il a même modifié ses pratiques, comme le reconnaît Naomi Lee, rédactrice en chef au Lancet.
Ce que l'on a fait après la rétractation de Surgisphere, c'est de changer nos politiques éditoriales. Nous avons été plus clairs sur qui avait eu accès aux données brutes de l'étude, et je ne parle pas des tableaux ou des graphiques de l'article, mais quel auteur a vraiment eu accès aux données et peut s'engager à cela. Et nous avons également une nouvelle exigence, c'est que l'un des évaluateurs de l'article doit aussi être familier de ce genre de données pour pouvoir en comprendre les limites.
Ouais, donc le Lancet dit avoir tiré les leçons de ses erreurs. Mais Anne-Laure, comment se fait-il qu'il ait pu ainsi publier n'importe quoi ?
Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une trop grande pression avec ce grand besoin de répondre le plus vite possible aux questions du public, des politiques sur le Covid. Et Elisabeth Bick, microbiologiste néerlandaise spécialisée en intégrité scientifique, considère qu'en faisant ça, eh bien, on n'a pas été assez prudent.
Avant le Covid-19, la science prenait tout son temps. L'examen par les pairs était un processus qui prenait généralement des mois. Là, les revues ont énormément accéléré le rythme, et pas toujours dans le bon sens. Normalement, la science avance lentement, peut-être trop lentement pour une situation comme une pandémie. Je ne pense pas que l'on puisse faire de la bonne science quand on est en mode panique. Les articles qui ont été publiés au début de la pandémie n'ont pas toujours été bien expertisés. Voilà pourquoi ils posent problème. Certains ont même été rétractés par les revues et retirés d'Internet.
Et il y en a eu beaucoup de ces études retirées ?
Oui, pas mal. Le site Retraction Watch comptabilise les articles rétractés dans la littérature scientifique et il en a recensé plus de 160 rien que sur le Covid. Un des fondateurs du site nous a même dit qu'il s'attendait à ce qu'il y en ait encore plus.
Oui, on parle ici d'études parcellaires ou non sourcées, mais il y a aussi eu des études pour lesquelles on s'est clairement arrangé avec la réalité.
Effectivement, et ça c'est ce qu'a constaté Isabelle Boutron, responsable du Centre d'études épidémiologie statistique à l'INSERM. Elle a analysé les essais cliniques réalisés sur le Covid, notamment pour le compte de l'OMS, et elle reconnaît qu'après quelques mois, elle a dû reclasser certaines études.
On a eu des études chinoises qui nous disaient dans l'article on est randomisé, et quand on regardait, on se rendait compte que non, ils avaient prévu une étude non randomisée. De temps en temps, on ne présente pas forcément tous les résultats, et les résultats qu'on présente vont plus souvent dans le sens de démontrer l'efficacité du traitement ou démontrer ce qu'on a envie de démontrer, notre hypothèse initiale. Et on voit aussi que des fois la conclusion des articles n'est pas forcément totalement en lien avec les résultats.
Ouais, donc du coup, ces résultats peuvent être sujets à caution. Mais il y a un autre phénomène auquel on a assisté.
Oui, comme le seul sujet qui comptait, c'était le Covid, eh bien tout le monde y est allé de son étude. Et on a ainsi vu apparaître des articles sur des sujets qui n'apportaient pas grand-chose. C'est ce que pense Christian Funk-Brentano. Il est cardiologue et relecteur pour des revues médicales comme le JAMA Cardial, le Journal of American Medical Association.
Il y a quand même eu une profusion d'articles dont la qualité était faible. Dans le contexte du Covid, le JAMA Cardiol a pris des papiers qui étaient informatifs, qui contenaient de l'information de bonne qualité, sauf qu'en temps normal, ce type de sujet, ça ne termine pas dans le journal de Mickey, mais presque.
Le journal de Mickey, il fait pas dans la dentelle, là. De quel sujet, en fait, il parle ?
Eh bien, en l'occurrence, il parle d'une étude sur un phénomène déjà bien connu des cardiologues qui montre que quand le cœur présente des anomalies, il peut s'arrêter.
Ouais, c'est un peu comme si on nous disait que quand on est mort, on ne respire plus.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on va maintenant évoquer quelque chose de plus grave que ce dont on vient de parler, Anne-Laure Barral. Depuis quelques années, on voit aussi se développer de véritables fraudes aux études scientifiques.
Oui, et des fraudes d'autant plus faciles à réaliser qu'il existe de nouveaux outils technologiques pour ça. Cyril Labbé est informaticien à l'université de Grenoble-Alpes. Lui, il a utilisé un logiciel qui s'appelle SciGen pour fabriquer de fausses études. Il a même créé un chercheur fictif qui s'appelait I Can't Care. Et sur Google, il est devenu plus cité qu'Einstein.
iCanCare, c'est un chercheur que je l'ai créé en mettant sur le web un certain nombre de textes générés automatiquement avec cet outil SciGen. Et donc, tous ces textes se référencent les uns les autres, ce qui permet à iCanCare d'avoir ce très grand indice de très grand nombre de citations. Donc voilà, l'objectif, c'était de montrer effectivement les failles qu'il peut y avoir dans le comptage automatique des citations.
Alors ça, c'était déjà il y a quelques années. Depuis, Cyril Labbé a créé des outils de détection de ces fausses études. Mais malgré ça, il constate qu'il en circule encore pas mal.
On a quand même retrouvé des papiers comme ça dans la littérature parce que il y a pas mal d'éditeurs qui ne connaissent pas ou qui effectivement acceptent encore ce genre de papiers. Et donc du coup, effectivement, ces papiers générés automatiquement qui n'ont vraiment strictement aucun sens, on les a encore retrouvés dans une proportion assez importante.
Donc on retrouve encore sur Internet des articles sans queue ni tête qui sont faits par ordinateur ?
Oui, parce que c'est très facile à faire. Mathieu Lafourcade, qui lui est professeur d'informatique à l'Université de Montpellier, m'a raconté ce qu'il a fait avec un autre logiciel d'écriture automatique.
Ce que j'ai fait un petit programme. Il y a un petit formulaire où on demande quel nom on veut mettre. Et ça génère donc l'article, le PDF que je récupère et que je mets dans mon dossier. Et donc certains ont été indexés. Enfin, il suffit de faire un Google sur le titre et parfois on les retrouve. D'avoir un article publié avec Platon ou Einstein, enfin avec des mathématiciens célèbres, je trouvais ça juste rigolo, mais c'est de l'humour de potache.
Oui, cet humour de potache, vous en avez vous-même fait preuve, Anne-Laure.
Oui, c'est tellement facile que j'ai aussi écrit un pseudo-article scientifique sur les méthodes d'existence dans la théorie du potentiel constructif, signé avec Einstein, s'il vous plaît.
Effectivement, ça en jette.
Oui, on aurait pu le faire avec Britney Spears aussi. Hein.
Bon, et l'étude que le logiciel fait ressemble vraiment à une vraie étude ?
Oui, mais on peut faire encore mieux aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle de ce que l'on appelle les GPT.
GPT, alors expliquez-nous, c'est quoi les GPT ?
Ce sont les transformateurs génératifs pré-entraînés. Mmh. Ce sont des programmes qui peuvent écrire des textes en fonction de ce qu'ils ont ingurgité. C'est ce qu'explique Didier Schwab, spécialiste du e-learning à l'Université de Grenoble.
Le système, il va apprendre à générer du texte à partir des textes qu'il aura rencontrés. Si vous apprenez uniquement sur des articles scientifiques, vous allez pouvoir générer de la science. Et si vous apprenez uniquement sur des pièces de Molière, vous allez générer des choses qui ressemblent à Molière. Voilà. Pour schématiser, si on écrit un livre, il faut clairement le relire. Parce que par exemple, dans des comptes rendus médicaux, nous, on a des hommes enceintes de 7 mois. Donc, vu de loin, c'est un super compte rendu médical. Hein, mais vu de près, il y a clairement un souci.
Ouais, donc c'est un programme qui imite de vraies études, mais apparemment c'est ce qu'on entend, hein, de manière encore très imparfaite. Mais si ces études sont vraiment bidons, Anne-Laure, comment certaines d'entre elles se retrouvent dans la presse ?
Bonne question, et c'est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs revues appartenant notamment aux géants de l'édition scientifique, le groupe Springer Nature. Plus de 400 faux articles ont été publiés alors qu'ils avaient été soumis à un comité de lecture. On a ainsi pu lire une pseudo-étude sur la surveillance de l'écosystème marin par capteurs Wi-Fi et musique traditionnelle dans le Arabian Journal of Geoscience.
Ouais, effectivement, c'est assez improbable, dit comme ça, cette thématique. Mais comment c'est possible si derrière, il y a un comité de lecture ? C'est ça que je ne comprends pas.
Eh bien, le problème, c'est que ces relecteurs, les revues, elles ne les connaissent pas personnellement. Elles envoient par mail l'article à corriger à des professeurs d'université qui se sont parfois eux-mêmes proposés. Mais ces soi-disant professeurs peuvent très bien être de faux enseignants. Et du coup, le nombre de signalements adressés au groupe Springer pose question, nous dit Alexandrine Chéronnet, une de ses directrices éditoriales.
Il y a beaucoup de dénonciations, hein. Donc on est souvent face à des plaintes. On doit faire un travail de recherche, d'investigation sur ces relecteurs, hein, de vérification, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les personnes derrière ces adresses e-mail. Donc on est vraiment obligé de faire très très attention à la manière dont on gère.
Dont on gère, c'est-à-dire ?
Eh bien, dont on gère les suites d'un article litigieux. Ça veut dire contacter chaque auteur, chaque relecteur, proposer un droit de réponse, et tout ça prend du temps.
Ce qui veut dire que certaines de ces études sont toujours en ligne ?
Oui, mais ce n'est pas le plus grave pour Elisabeth Bick, consultante en intégrité scientifique. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on voit apparaître de faux articles avec de fausses données médicales, sur des cancers par exemple, qui sont en fait fabriqués par de véritables usines à articles scientifiques.
Il y a des entreprises qui produisent des articles qui ressemblent à de vrais articles scientifiques, mais qui sont complètement faux. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Les textes sont un peu différents, les cancers dont ils parlent sont différents. Nous en avons découvert quelques centaines qui semblent provenir de ces usines à articles. Certains traitent par exemple du cancer de la prostate, mais la moitié des patients sont des femmes.
Ouais, ce qui semble effectivement là encore assez improbable.
Oui, mais ces usines à articles scientifiques, ces paper mills, ne font pas que produire n'importe quoi. Elles font aussi toutes sortes de propositions malhonnêtes aux chercheurs, comme l'a constaté Guillaume Cabanac de l'Université de Toulouse.
Les paper mills proposent au monde entier d'acheter une place sur la ligne des co-auteurs d'un article scientifique. Donc, si je suis un étudiant ou un universitaire en manque de résultats scientifiques, je peux me connecter sur ce site, observer les différentes offres de ces entreprises qui me proposeront des textes dans différentes thématiques et acheter la place de l'auteur numéro 3 sur un article qui pourra être envoyé dans telle revue.
Et en surfant sur certains de ces sites, nous avons effectivement trouvé une place à 1 150 $ pour être le premier auteur d'une étude sur des traitements contre le cancer.
Mais qui se cache derrière ces sites internet, ces usines à fabriquer ces pseudo-articles scientifiques ?
Eh bien, on ne le sait pas encore. Il est très difficile de les identifier, si l'on en croit Elisabeth Bick.
Nous ne savons pas exactement qui fabrique ces articles. Nous avons juste trouvé des similarités entre eux. Nous avons écrit aux revues, ensuite les revues ont écrit aux auteurs pour leur demander « Hey, il y a un doute sur votre article, pouvez-vous me montrer vos données ?» Souvent, les auteurs répondent « Oh, vous n'avez qu'à le rétracter, nous avons dû faire une erreur. » Ils ne se battent pas vraiment pour le défendre, alors que c'est ce que je ferais si un de mes articles était critiqué. Cette attitude nous fait donc encore plus douter.
Bon, mais là encore, même question que tout à l'heure, Anne-Laure. Si ces papiers sont faux, pourquoi les éditeurs les acceptent ?
Parce que le monde de l'édition scientifique, c'est devenu la jungle. Surtout avec l'explosion ces 20 dernières années de nouveaux acteurs qu'on appelle les revues prédatrices.
Les revues prédatrices, et c'est quoi ?
Eh bien, leur nom parle un peu de lui-même. Écoutez à ce sujet, Hervé Maisonneuve, médecin et fondateur du blog Rédaction Médicale.
Un modèle économique a été inventé qui s'appelle le système auteur-payeur. Au lieu que ce soit le lecteur qui s'abonne et qui paye pour lire, c'est l'auteur qui maintenant paye lorsque son manuscrit est accepté. Et se sont créés épisodiquement en Égypte, mais aujourd'hui essentiellement en Inde, se sont créées des sociétés dont certaines font 7000 revues prédatrices. Et c'est parti de l'idée de dire, puisque l'auteur paye, on va lui dire que nous, on est la même revue et qu'on va faire plus vite et moins cher. Monsieur l'auteur, vous êtes le meilleur, mais moi, au lieu de vous faire 2 000 $, je vous fais 500 $. Et au lieu de vous faire attendre 3 à 6 mois, c'est publié dans 15 jours.
Mais si ces revues prédatrices, comme vous dites, sont si peu rigoureuses, Anne-Laure, comment elles peuvent être lues par de vrais scientifiques ?
Alors, il faut savoir qu'on a du mal à distinguer ces revues de celles qui sont vraiment fiables. D'autant plus qu'elles jouent parfois sur des homonymies. Par exemple, vous avez une publication douteuse qui s'appelle « Le Journal of Pharmaceutical and Biological Science », alors qu'il existe le Journal of Pharmaceutical Science, qui, lui, est parfaitement sérieux.
Effectivement, ça se ressemble. Et puis établir la liste de ces revues prédatrices, en fait, c'est pas si simple que ça.
Oui, un bibliothécaire américain s'y est bien essayé, mais sans succès, comme le raconte encore Hervé Maisonneuve.
Jeffrey Bell, à Denver, qui était documentaliste, a fait cette première liste, qui a 7-8 000 revues. Et il a eu du mal à continuer parce qu'il a été très critiqué, soit par des revues prédatrices qui voulaient attaquer son université, soit par des collègues. Aujourd'hui, en 2021, il existe une société privée américaine, Cabells, qui a une liste de revues prédatrices avec des critères explicites et bien donnés. Elle a bientôt 14 000 revues dans sa base, mais nous n'avons pas accès parce que c'est un service payant et très cher.
Attendez, ça veut dire qu'il existe bien une liste de ces revues douteuses, mais qu'on ne peut pas la consulter ?
C'est ça. L'abonnement coûte plusieurs milliers d'euros, mais en France, à notre connaissance, aucune université ne l'a pris.
Mais alors, comment font les chercheurs français pour savoir quelle revue est sérieuse ou pas ?
Alors, ils contournent l'obstacle. Plutôt que de lister les mauvais élèves, plusieurs universités font l'inverse. Elles établissent un classement des revues fiables. C'est notamment ce qu'a fait cette rentrée l'université Paris-Sorbonne, dont Christian Funk-Brentano et le référent intégrité scientifique.
Cette liste est destinée à dire aux candidats à des nominations dans les universités, dans la nôtre en particulier, que s'ils veulent que leur dossier soit apprécié par leurs évaluateurs, voilà la liste des revues dans laquelle ils sont invités à publier. On peut se faire abuser. D'ailleurs, je pourrais encore certainement me faire abuser aujourd'hui. Hein.
Ouais, je pourrais encore me faire abuser. Bon, mais il faut prendre un peu de hauteur, là, Anne-Laure. Si on en est là, c'est aussi pour une raison plus profonde. C'est parce que publier pour un scientifique, en fait, c'est devenu vital.
C'est vrai. Publier, c'est faire connaître aux autres son travail. Mais cela permet aussi d'obtenir des moyens financiers pour son laboratoire de recherche. Et ce, grâce à un système dans le milieu médical qui consiste à accumuler des points qu'on appelle SIGAPS, comme l'explique Mathieu, un jeune chercheur en cancérologie.
Le principe, c'est que moi, si je publie suivant ma position dans l'article, donc si je suis premier ou dernier auteur, ça va rapporter plus de points que si je suis au milieu, et suivant l'importance du journal, je gagne plus ou moins de points SIGAPS. Dans un second temps, mon institution recevra une rétribution indirecte due à ces points SIGAPS. Et puis moi, si jamais un jour j'ai envie de postuler pour devenir professeur des universités, praticien hospitalier, j'aurais besoin d'un certain nombre de points SIGAPS.
Et tout ça donc crée une compétition qui pousse à publier ?
Bien sûr, d'autant que le nombre de publications et de citations des chercheurs, c'est ce qui permet aussi de classer leur université, rappelle le sociologue des sciences au CNRS, Arnaud Saint-Martin.
On est pris dans une espèce de course effrénée de compétition internationale entre des universités, des centres qui sont de plus en plus gros. Hein. Et là, on voit à quel point la signature, le fait de bien signer quand vous publiez un article, si vous mettez simplement votre nom, ça marche pas. Il faut mettre votre nom, votre mail et l'institution. Et pourquoi on met l'institution ? Parce que c'est ce qui va compter à la fin.
Et c'est ce qui va compter en particulier pour le classement de Shanghai. Il donne chaque année le palmarès des universités dans le monde, en fonction notamment du nombre de publications de leurs scientifiques. Il a pris un tel poids que dans certains pays, les chercheurs doivent de façon obligatoire publier un certain nombre d'études par an, au moins 4 par exemple en Malaisie.
Et si on ne publie pas ?
Eh bien, vous n'avez plus les moyens de travailler.
Effectivement, ça provoque, on le comprend, une méga pression. Mais elle a aussi un revers, cette pression. Parce qu'à terme, tout ce qu'on vient de décrire, Anne-Laure, ça peut aussi donner une mauvaise image de la science.
Effectivement, alors que la science est pourtant essentielle pour comprendre le monde dans lequel on vit, le comité d'éthique du CNRS s'inquiète d'ailleurs, dans son dernier avis, de la montée d'une forme de populisme scientifique et dont Didier Raoult serait l'une des illustrations. Pour Jean-Gabriel Ganassia, l'ex-président de ce comité, on place désormais sa confiance dans les personnes plutôt que dans leurs méthodes.
Il y a eu une volonté de rompre avec un régime classique de publication scientifique, de mettre en cause l'institution scientifique avec ses procédures un tout petit peu lentes, hein, avec l'évaluation par les pairs, et mettre en cause aussi les connaissances qu'elle promeut et défendre une espèce de lien direct entre certains scientifiques et le public, et un lien affectif, or que normalement dans le domaine de la science, on reste uniquement du côté du rationnel.
Et le risque de s'éloigner du rationnel, il est vraiment sérieux ?
Il n'y a qu'à voir les chiffres. Hein. On estime la fraude aux études scientifiques à peu près 2%. Ça peut paraître peu, mais si on fait le calcul, sur les 600 000 études publiées rien que sur le Covid, ça en fait quand même plus de 12 000 qui sont potentiellement frauduleuses.
Oui, et 12 000, effectivement, ça n'est pas rien. Bien, merci Anne-Laure Barral. Alors, je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, on va vous raconter comment l'IGPN, la police des polices, s'est métamorphosée ces dernières années.
Summers women. How many deaths are lost in vain? Who's counting now these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away. How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days, wasted days. We watch our lives.
C'était toute l'Amérique dans une seule chanson, John Mellencamp et Bruce Springsteen, ce que vous avez sans doute reconnu, qui chantaient ensemble Wasted Days, les jours gaspillés, une méditation sur le temps perdu.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Frédéric Charpier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon. C'est une plongée au cœur de cette police des polices, assez secrète, souvent mal aimée d'ailleurs, à la fois de policiers qui apprécient pas toujours de l'avoir débarqué chez eux et qui freinent d'ailleurs parfois vos enquêtes, vous en parlez dans le livre, et de politiques ou d'observateurs qui, eux, lui reprochent plutôt son manque d'indépendance. Alors, vous mettez un point d'interrogation, faut le préciser, hein, à une police au-dessus, une institution au-dessus de tout soupçon. Pourquoi vous mettez un point d'interrogation ?
Parce que ça dépend à quel moment de l'histoire de l'IGPN on prend l'institution en question. Si on remonte dans le temps, on peut effectivement considérer que le soupçon est légitime. Si on s'en tient essentiellement à l'IGS, il est parfois très légitime.
Inspection générale des services.
Inspection générale des services, qui a été une institution équivalente à l'IGPN, mais sur Paris, la région parisienne proche.
Oui, vous dites de l'IGS qu'elle était perçue comme un instrument d'exécution des basses œuvres administratives.
Ben ça, c'est moi qui le dis, mais parce que je reprends une expression d'autre, mais c'est les syndicats de policiers au début des années 80. Quand les syndicats disaient qu'elle était chargée des basses œuvres administratives, elle s'occupait pendant très longtemps, c'est elle qui a fait les enquêtes. Au départ, quand vous voulez rentrer dans la police, bon, on essaye de voir si le profil convient, si vous n'avez pas un casier judiciaire, si vous n'êtes pas trop de gauche, parce que, ou de gauche tout court. Donc c'est une institution qui avait accès à fabriquer elle-même ses propres archives, ses dossiers, etc. Elle était crainte parce qu'elle savait tout des gens, en particulier des gens qui entraient dans la police. Puis elle les surveillait, puis elle peut casser très facilement, elle pouvait très bien casser des carrières.
Alors ça, c'était avant, hein, vous le soulignez. 2012, donc, fusion IGS-IGPN pour créer ce grand corps national de l'IGPN. Et puis, il y a eu pas mal de bouleversements quand même. Ne serait-ce que le déménagement, qui n'est pas anecdotique non plus. Quitter la place Beauvau, ça dit quelque chose.
Oui, c'est vrai. Bon, bah, c'était un service qui était un peu trop près du ministre, on va dire, du cabinet. donc facile pour les interventions, les gens rendaient compte facilement. Bon, quelque part, symboliquement, c'était on coupe le cordon. Voilà, on a un sentiment presque peut-être d'autonomie par rapport au pouvoir politique, bien que le pouvoir politique reste quand même très envahissant d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont remises à plus tard ou qui sont reportées ou déportées ou supprimées. Parce que le ministère, ça vient du ministère, le cabinet, ils veulent pas donner l'impression que la police serait un corps complètement gangréné, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs. Hein. Mais je veux dire par là le fait d'accumuler les affaires, donc il y a une sorte de dosage en ce qui concerne les enquêtes, ce qui prouve bien que la liberté d'action est réelle, mais elle est quand même assujettie.
Encadrée. Voilà. Ouais. Ou contrainte. Il y a une autre évolution qu'on a observée à l'IGPN ces dernières années, c'est la féminisation, notamment de la hiérarchie.
Oui, alors ça, c'est très intéressant. D'abord, c'est au-delà de l'IGPN. Hein. La police se féminise depuis de nombreuses années. Alors, c'est vrai que bon, l'IGPN est devenu un sanctuaire. Hein, parce qu'il y a d'autres services où il y a des femmes, notamment le renseignement.
La patronne de l'IGPN.
La patronne, c'est devenue quasiment maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, je veux pas m'avancer, mais on pourrait difficilement imaginer que la suivante soit un homme. Voilà.
Alors, on apprend aussi dans votre livre que l'IGPN dispose d'un certain nombre d'équipements, de moyens d'études aussi, un cabinet d'études notamment et de l'analyse. C'est quoi un cabinet d'études et de l'analyse à l'IGPN ?
C'est l'une de ses fonctions historiques principales. Au fond, l'IGPN, ça a toujours été un service de réflexion, d'investigation. C'est un service qui travaille beaucoup plus sur ce qui va pas dans la maison, qui fait des enquêtes de terrain, qui essaie de se projeter dans l'avenir. Moi, j'ai rencontré pas mal de flics.
Donc, c'est pas seulement les bœufs-carottes.
Bon, évidemment, ces derniers temps, tout a été polarisé là-dessus. On comprend pourquoi. Il y a eu un mouvement social qui a duré très longtemps. Il y a eu des violences bon, qui étaient inhabituelles. Mais il y a surtout la réalité de cette institution qui n'est pas du tout qu'un cabinet de discipline. Par exemple, ce qu'on appelle la police de proximité, elle a été pensée, analysée, étudiée à l'IGPN.
Alors, Frédéric Charpier, on découvre aussi dans votre livre, enfin on le savait, mais que l'IGPN n'a pas toute autorité sur la police, puisqu'on le voit notamment dans l'affaire de Zineb Redouane, qui est cette femme qui est morte après un tir de grenade lacrymogène lors d'une manifestation à Marseille, et bien que l'IGPN a d'abord demandé à ce qu'on lui fournisse un certain nombre d'éléments que la police a refusé de lui fournir, et que très récemment d'ailleurs, l'IGPN a demandé des sanctions que la hiérarchie a refusé d'imposer.
Oui, alors cette affaire-là, quand j'ai démarré mon enquête, c'est une des affaires sur lesquelles je me suis beaucoup concentré parce que, à mon avis, elle est exemplaire au niveau de la bavure. Là, on a une femme d'un certain âge qui ferme ses volets au quatrième étage le jour d'une manif. Elle participe à rien, elle crie pas, elle se manifeste pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'enquête a été plus ou moins, si vous voulez, entravée par les réactions d'un certain nombre de CRS, notamment au niveau de la hiérarchie. Mais parce que le chef, si vous voulez, du groupe en question, voulait prendre sur lui la responsabilité. Or, on peut pas juger quelqu'un qui a rien fait uniquement parce qu'il dit « c'est moi au final qui suis responsable parce que je suis le parrain ». Entre guillemets, parce qu'il y a un système de parrainage au sein des CRS. Donc, ils ont été un peu tributaires de ce genre de comportement. Et dans cette affaire de Marseille, c'est quand même plus la justice qui est, à mon avis, fautive que l'IGPN qui a fait son travail.
Mais l'enquête continue. L'enquête dit que la justice, d'ailleurs, n'infirmera pas
espérons, en tout
la
cas,
décision du commissaire.
Qu'elle ira plus loin, parce qu'il y a sans doute des expertises qui devraient être faites. Bon, j'espère que ça... Je vois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de réticence au niveau du cabinet, enfin de la direction générale de la police, pour donner suite aux décisions qui avaient été prises en termes administratifs par l'IGPN.
Alors un dernier mot des effectifs, parce que vous citez les chiffres de la CFDT Police. En 2017, une enquête de l'IGPN prenait 163 jours en moyenne, sauf que ensuite se sont greffés là-dessus les gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de faire ce travail ?
Honnêtement, non. Non, ils sont un peu submergés, ça explique un peu... En plus, ils ont perdu quelques-uns de leurs policiers aussi, donc ils ont des effectifs aussi légèrement en baisse. Puis en plus, il y a de moins en moins de policiers qui ont envie. Mais c'est comme la PJ, hein. Il y a une crise aujourd'hui dans un certain type de police, bon, qui un peu ne fait plus recette comme elles auraient pu faire recette autrefois. Donc, je dirais pas qu'ils sont démunis, mais ils font en fonction de
Combien ils sont ?
Bon, 300 à peu près, en tout, mais ils font pas que ça. c'est un service qui fait plein de choses en même temps.
C'est ce que vous expliquez.
On a dit tout à l'heure, voilà, même s'ils ne sont pas tous affectés au même service.
Bien, merci Frédéric Charpier. Alors je rappelle que votre livre s'intitule IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon. Et on va rappeler qu'il y a un point d'interrogation après soupçon. Et je précise que ce livre est édité chez Albin Michel. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Sybille Clamins et Clément Vuillet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.